Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Aujourd'hui, vendredi 9 janvier, les micros de la radio mobile du studio de Radio Campus Orléans ont été déplacés au lycée Voltaire, où je suis actuellement, donc avec une classe de première qui a comme spécialité HLP. Et nous allons aborder au cours de cette émission un thème que les élèves ont travaillé dans le cadre de cette spécialité, à savoir le pouvoir de la parole. Mais pour commencer cette émission, on va peut-être faire une présentation. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui pourrait présenter tous ses camarades, ou à moins que chacun prenne le micro, voilà, et donne son prénom pour nos auditeurs, auditrices. Allez-y.
Alors bonjour, je m'appelle Mariam.
Bonjour, je m'appelle Nabila.
Bonjour, je m'appelle Eva.
Bonjour, je m'appelle Pauline.
Bonjour, je m'appelle Amy.
Bonjour, je m'appelle Bellechante.
Bonjour, je m'appelle Axel.
Bonjour, je m'appelle Iliane.
Bonjour, je m'appelle Inès.
Bonjour, je m'appelle Lilou.
Bonjour, je m'appelle Charlotte.
Bonjour, je m'appelle Rose.
Je m'appelle Mathéo.
Bonjour, je m'appelle Mathéo.
Bonjour, je m'appelle Anouchka.
Bonjour, je m'appelle Valentine.
Voilà pour les présentations. Ils sont 15 et on remercie bien évidemment Laurence Lacroix, leur professeur de philosophie dans le cadre de cette spécialité. On va peut-être commencer par présenter cette spécialité auprès de nos auditeurs auditrices.
La spécialité HLP, c'est une spécialité littéraire dans laquelle on étudie du coup la littérature et la philosophie, deux matières enseignées par deux profs différents qui vont nous apporter plus tard de quoi comprendre le monde qui nous entoure avec des questions philosophiques et des livres lus. Ça peut nous aider en classe, en discours, à parler avec autrui, d'ailleurs le terme d'aujourd'hui.
Vous m'avez parlé de littérature, de philosophie, mais l'humanité du H, donc HLP, humanité, littérature, philosophie, et l'humanité dans tout ça.
L'humanité, c'est un peu ce qui réunit la littérature et la philosophie. C'est le grand thème, parce qu'à la base, cette spécialité s'appelait uniquement humanité, et ça s'est divisé en deux par littérature et philosophie.
C'est vaste, l'humanité.
Oui, c'est pour ça qu'il y a deux branches.
D'accord, et donc vous l'abordez par le livre et la philosophie. Ça vous intéresse? Ça vous plaît?
Oui.
Oui. Il y en a d'autres qui veulent témoigner justement sur ce que ça leur apporte.
Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup cette SP et c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai décidé de la garder en terminale.
Parce que vous pouvez la garder en terminale?
Oui.
Ok, très bien. Vous commencez en première et puis certaines vont la poursuivre en terminale. Il y en a d'autres qui veulent qu'on poursuive en terminale?
Oui, moi aussi, je pense à la poursuivre.
Et qu'est-ce qui vous a plu alors?
Ça me plaît d'avoir des réflexions sur le monde en philosophie. Enfin, on en a aussi en littérature, parce que j'aime beaucoup l'interprétation des livres, tout ça. Ça me plaît beaucoup.
Surtout la philosophie qui est intéressante dans le sens où on a l'impression d'être pas dans un cours mais dans un débat. On débat sur par exemple des textes ou enfin des hommes comme Cicéron. Voilà, on débat un peu sur tout. Donc ça mêle histoire et philosophie. Et du coup l'humanité, ça vient surtout de l'esprit de l'homme. On le crée de nous et pas de. Enfin c'est pas comme une table où on va le construire avec du bois, c'est vraiment de nous, c'est notre opinion, c'est avec notre parole, c'est nous qui parlons et c'est notre... Enfin, on a compris ce que je voulais dire.
Alors, je pense, c'est-à-dire que le bois, il faut aller le chercher dans la forêt, etc., alors que l'esprit, il est dans votre corps. C'est ça, vous êtes le menuisier de votre esprit.
Oui, voilà, on est vraiment, c'est nous qui construisons notre opinion et notre pensée.
Du coup, c'est ce que je voulais dire. La différence avec ce cours, c'est que, contrairement aux autres cours, on n'a pas l'impression qu'on est là en train de nous apprendre des trucs. C'est plus, on débat ensemble, on échange des opinions et c'est intéressant.
Moi aussi, je préfère le côté philosophique, parce que je ne suis pas du tout littéraire de base, mais, et pas non plus au niveau des maths. J'ai pris la plus simple, la spécialité que je pensais la plus simple. Et au final, ça m'a beaucoup apporté parce que je pense du coup la garder aussi l'année prochaine parce que j'ai pris d'autres spécialités que je pensais qu'ils seraient plus simples, mais en fait pas du tout. Donc je vais garder celle-ci parce que ça me plaît vraiment et j'apprends beaucoup de choses du coup.
On va donc aborder le thème de notre émission, à savoir le pouvoir de la parole, thème que vous avez déjà abordé en cours.
Le pouvoir de la parole, c'est la manière dont les autres vont réussir à exprimer leurs pensées par les mots, la différence qu'on fait par rapport à comment est-ce qu'on pense les choses et comment est-ce qu'on les exprime. Réussir à savoir comment parler pour convaincre ou persuader les auditeurs. Et pouvoir comprendre également comment est-ce que les personnes s'expriment pour pouvoir parfois déjouer des techniques de langage que autrui ont pour nous convaincre ou nous persuader.
Oui, il y a quelque chose d'important à spécifier aussi, c'est que la parole, c'est uniquement les humains qui l'ont et pas les animaux. Donc les animaux, ils ont une forme de langage. Et nous, les humains, on a des langues et on a la parole surtout. Quelque chose de très puissant.
Moi, ce que je voulais aussi exprimer, c'est que le pouvoir de la parole, c'est quelque chose de très important à étudier, surtout pour nous, parce que, bon, là, on va avoir le bac de français, donc un oral, mais l'année prochaine, oral, on aura le grand oral. Donc, le fait de pouvoir comprendre comment parler, étudier la rhétorique, ça nous permet d'apprendre à nous exprimer, à construire un discours, ce qui est très utile dans la vie de tous les jours. Mais en plus de savoir nous exprimer, ça nous permet aussi de savoir comprendre quand les autres ils s'expriment, ce qu'ils essayent de faire. Parce que, comme le disait Émile, le fait d'éviter, par exemple, la manipulation, même dans les discours politiques, la politique, c'est quelque chose de très important. En plus, nous, on va bientôt avoir le droit de vote, donc c'est encore plus important. Pouvoir comprendre que bah, les hommes politiques, ils parlent d'une certaine manière pour faire passer leurs idées et qu'il bah, y a forcément un peu de manipulation, comme dans beaucoup de choses. Et qu'il faut pouvoir le comprendre, pouvoir créer notre propre opinion, pas se laisser influencer, comprendre que quand quelqu'un dit ça, en fait, il veut peut-être dire ça, ou nous faire comprendre ça sans forcément le dire. Et que oui, le fond est important à comprendre, les sous-entendus aussi, et que la forme ne fait pas tout, même si elle fait beaucoup de choses, parce qu'une belle forme va faire qu'on va écouter. Mais si le fond est nul et qu'on ne s'en rend pas compte parce que la forme, elle nous envoûte, on va se laisser avoir. Comme quand la forme est moins bien, on ne va pas vouloir écouter et ça peut être compréhensible. Sauf que si le fond est bien, bah on peut passer à côté de quelque chose de très important.
Ensuite, on a du coup abordé en cours la parole à l'écrit, mais du coup aussi la parole à l'oral. Dans la retranscription de textes qu'on a fait en littérature, on a fait une représentation au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et donc on avait des œuvres du coup, qu'on nous a attribuées, enfin qu'on a choisies dans un lot d'œuvres qu'on nous a attribuées. Et donc, du coup, on devait faire parler le tableau en inventant des histoires, une sorte de petite scénette de théâtre. Et du coup, avec tout ce qu'on a appris en philosophie sur la parole et en littérature, toutes les œuvres qu'on a étudiées, on a pu du coup se servir de tout ce panel de méthodes, de techniques, d'outils littéraires qu'on a pu du coup retranscrire dans ce projet.
Dans ce projet aussi, on a pu apprendre qu'il y avait plusieurs types de langages, comme par exemple le langage corporel. C'est grâce à celui-là qu'on a réussi à interpréter les œuvres par nous-mêmes et les faire parler. Le but, c'était de comprendre comment est-ce que le tableau s'organisait et qu'est-ce que les personnages, à travers leur position, pouvaient exprimer. Est-ce que nous, on pouvait en tirer et retranscrire à travers des mots plus que des actes ?
C'est-à-dire qu'on se rend compte, notamment avec ce projet, que la parole passe d'abord par l'écrit, parce que tous les grands discours sont écrits avant et bien travaillés. Donc l'improvisation existe, mais elle est travaillée.
Est-ce qu'il n'y a pas justement des orateurs qui parlent ou qui lisent dans leur pensée une parole qui serait écrite? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce sont des techniques, tout ça, la rhétorique. Là, ce dont vous me parlez, ce sont des techniques. Donc, on peut très bien, après, en parlant, ne pas parler naturellement, ne pas dire franchement ce qu'on pense. On ne va pas dire à la foule, bon, alors aujourd'hui, je vais vous manipuler parce que j'aimerais que vous votiez pour moi. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Mais il y a des techniques qui permettent, j'allais dire, de sortir des discours presque préconçus. Je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui, une disquette.
Oui. Et ben c'est pour ça qu'ils bossent le fond et la forme, en gros. C'est peut-être que le fond, il ne pense pas, mais il va dire... tout grand orateur s'adapte à son auditoire. Donc, il va dire ce qui plaît à son auditoire. Donc, c'est comme un peu de la manipulation. Il va jouer de ça.
C'est ce que tout bon homme politique fait forcément, parce que sinon il ne se ferait pas élire. Et au final, c'est dans la plupart des discours, c'est ça. Il y a forcément, on ne parle pas pour nous-mêmes, on parle toujours pour les autres. et pour que les autres soient d'accord avec nous, pour lancer un débat avec les autres. Donc au final, la manipulation, elle est partout. Le fait de dire les choses que les gens veulent entendre, ça devient presque logique. Et en même temps, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Enfin, pour qu'ils se fassent élire, si. Mais je sais pas comment le dire. Ça semble presque... Ils se feraient pas élire sinon, quoi, pour les hommes politiques, en tout cas. Et... Oui, je sais pas.
C'est pour ça qu'on dit que la parole reste hypocrite par rapport à la personne qui le dit. On peut pas dire ce qu'on pense. C'est comme en politique. Du coup, je reprends tes exemples, Pauline. C'est en politique, quelqu'un qui veut se faire élire ne va pas forcément dire ce qu'il pense juste pour dire ce qu'il pense. S'il le dit, il aura des risques de ne pas se faire élire. Le but, c'est de, comme on dit, s'adapter au public pour les convaincre et pour qu'ils votent pour nous. Mais si ce qu'on dit pour les convaincre, c'est pas ce qu'on pense... Vu que le but, c'est d'être élu, eh bien, on dit pas ce qu'on pense.
C'est-à-dire que la parole, c'est un acte. Donc, on peut penser ce qu'on veut, ce sera pas considéré comme un acte. Mais la parole, en revanche, si on l'a dit, si on a dit ce qu'on pensait, c'est considéré comme un acte. Donc, ça peut être répréhensible si c'est pas bien.
Après, je pense qu'il y a quand même des hommes ou des femmes politiques qui disent ce qu'ils pensent. Enfin, si on prend l'exemple de Marine Le Pen, je pense qu'elle ment pas quand elle est raciste, quoi. C'est ce qu'elle pense. Mais je pense qu'elle l'est sincèrement. En fait, ça dépend, parce qu'il y a des choses que... Mais c'est pas une polémique, alors, tout le monde sait qu'elle est raciste.
Ou xénophobe, au moins xénophobe.
Au moins xénophobe.
Il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais je pense qu'elle ment pas là-dessus, parce qu'elle sait justement que ça va plaire à l'auditoire qu'elle veut, au vote qu'elle veut récupérer. Donc, on peut dire ce qu'on pense quand on est une personnalité politique, si on sait que ça va nous apporter des voix. Il y a vraiment des gens qui, à mon avis, qui disent sincèrement ce qu'ils pensent, que ce soit bien ou mal, parce qu'ils savent que ça va plaire. Après, oui, il y a le truc où quand on sait que ça va pas forcément plaire ce qu'on veut dire, on va dire autre chose.
Pour rejoindre ce qu'elle a dit, on peut dire ce qu'on pense, mais ça va être bossé ce qu'on va dire. Ils peuvent pas dire comme ça « oui, je suis raciste ». Non, ça va être bossé, ça va être fait par des messages, par des mots, par des phrases qui font que il y a un sous-entendu derrière, il faut pousser un peu plus loin que son... C'est ça ce qu'on nous apprend, par exemple, en philosophie, c'est on pousse notre pensée à pas rester sur le simple mot, à rester sur le sens derrière. Donc, on peut exprimer notre pensée, mais pas de la manière qu'on va le dire, par exemple, avec des amis, enfin, voilà.
Alors, on peut peut-être préciser à nos auditeurs auditrices que Marine Le Pen est avocate et donc que la rhétorique, le discours, l'éloquence, elle maîtrise tous ces domaines justement de la prise de parole en public, tout comme son père, hein, qui était un grand orateur, un grand rhéteur, qui a longtemps étudié les citations grecques, latines et notamment la rhétorique. Et on a vu justement progresser le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, progresser en termes de vote lors des différentes élections, notamment avec ces deux personnages qui maîtrisent le discours public. Alors, vous disiez qu'elle dit ce qu'elle pense, hein. Alors, on peut penser aussi, on va citer un autre parti, à Nicolas Sarkozy, hein, aussi, qui est lui aussi avocat à la base. Alors, je vous laisse prendre la parole parce que moi, il y a quelque chose qui me trouble quand même dans ce que vous dites, c'est que, en fait, à quoi bon écouter ces rhéteurs qui nous donnent qui nous servent le kebab qu'on n'avait pas encore commandé, mais dont on aimerait bien, dans lequel on aimerait bien croquer. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je fais. C'est du mensonge, tout ça, en fait, au final. Ça ne sert à rien, la parole, puisque c'est de la manipulation.
C'est souvent de la manipulation, mais pas tout le temps. Enfin, en politique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Mais par exemple, moi, je sais que quand je parle à ma maman, la plupart du temps, je lui dis la vérité. Je vais pas lui mentir. Quand je parle à ma sœur ou à mes frères, c'est pareil. Mais la parole publique est forcément une grande différence avec la parole privée. C'est que la parole privée, on peut dire tout ce qu'on pense. Là où la parole publique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'elle va être, écoutée, elle va être reçue par des gens, elle peut blesser des gens, des fois c'est même son but. Donc il y a forcément une part de sincérité. On ne part pas en politique, enfin si, il y en a sûrement qui partent en politique juste pour être élu, mais il y en a sans doute là-dedans qui partent en politique dans le but d'aider les autres. Après, ça peut être contestable. Je pense que Marine Le Pen, elle veut sûrement aider les gens, mais elle a une vision très précise de quel genre elle veut aider et quel genre elle ne veut pas aider. Là où il y en a qui voudraient aider plus de gens. Et je pense que ça part d'une intention sincère. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas, quoi. Mais il y en a sûrement qui partent avec des mensonges plein la tête et qui sont prêts à les dire.
Pour revenir à l'exemple de Marine Le Pen, on peut quand même remarquer qu'elle est beaucoup moins critiquée que son père avant elle, Jean-Marie Le Pen. Et du coup, je pense que ça a à voir avec son discours également. Je trouve que le discours de Jean-Marie Le Pen, il est beaucoup plus frontal, beaucoup plus agressif, là où elle essaie d'être un peu plus lisse. Et du coup, je pense que ça a aussi à voir avec le changement entre Front National à Rassemblement National. C'est un discours un peu plus inclusif. Enfin, elle veut le faire passer comme tel. Et du coup, on se rend compte que la façon dont... Parce qu'en soi, elle porte à peu près les mêmes idées que son père, mais elle change le discours. Et du coup, ça fait qu'on a plus tendance à l'écouter, enfin qu'on a plus de facilité à l'écouter, à être d'accord avec elle, parce qu'elle n'est pas aussi frontale et aussi agressive.
Elle maîtrise mieux la manipulation. D'accord, la manipulation. Alors, vous disiez qu'il y avait une différence entre le discours privé et le discours public. Eh bien, je pense que oui, forcément. Alors, prenez le micro au lieu de hocher la tête. Je pense que oui, forcément, parce qu'il va falloir adapter son discours à un plus grand nombre et peut-être faire des concessions sur le fond et revoir la forme pour être capable, j'allais dire... Comment le dire, c'est pas que j'allais dire, d'avoir l'adhésion du public au discours que l'on porte. Vous pensez que plus on parle quand on parle à un nombre de personnes, plus ce nombre de personnes augmente, plus on est forcé de tomber dans la manipulation.
Tout dépend de ce qu'on veut faire avec le discours. Si on cherche à convaincre, si on cherche à diviser, à rassembler une cause, tout dépend.
Oui.
En fait, maintenant, on vit dans une époque où y a des réseaux sociaux. Donc, maintenant, l'information va vite circuler. Et comme on appelle au jour d'aujourd'hui un bad buzz, on peut faire un bad buzz au niveau de ses paroles. Donc, on peut perdre la cote avec juste une phrase, un truc un peu déplacé ou qui peut être sorti de son contexte. On peut faire un bad buzz et du coup avoir plus la cote, se faire insulter de partout, harceler, des choses comme ça. On vit avec cette époque de réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on le vit. C'est pour ça que le discours, il faut le bosser et il faut pas... faut que le fond soit caché un peu. Et du coup, il faut aller vraiment plus loin que le bout de son nez.
La différence aussi avec le discours privé, c'est que par exemple, quand tu parles avec tes parents ou avec tes amis, ils te connaissent, ils savent commenter réellement. Alors que quand tu parles à un public qui ne te connaît pas du tout, déjà, il a moins d'empathie envers toi, mais aussi, il ne sait pas vraiment quelles sont tes vraies intentions derrière. Et du coup, on peut vite juger une personne qu'on ne connaît pas vraiment.
Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus que la parole privée et publique, par exemple, avec les réseaux sociaux, comme tu le disais juste avant. Eh bien, on peut préparer ce qu'on dit. On peut, vu qu'on écrit des messages, on prépare à l'avance. Donc finalement, un discours ou un message ou une parole, on le prépare toujours tous un peu avant. Avant d'envoyer un message à un professeur, par exemple, pour dire qu'on est malade, on fait attention à mettre les marques de politesse. Quand on envoie un message à nos amis pour leur dire quelque chose, on oublie parfois la ponctuation. Quand on parle à nos parents, on ne va pas leur parler de la même manière dont on parle à des amis ou des inconnus ou des supérieurs.
C'était sur la séparation public-privé. Il y a aussi le truc que quand on parle avec pas beaucoup de personnes qui nous connaissent, comme disait Mariam, on peut s'expliquer si c'est mal compris et ils vont comprendre nos explications. Si on parle à plein de gens qui nous connaissent pas, qui entendent notre discours parce qu'ils passent à la radio, parce qu'ils sont tombés dessus par hasard, ils peuvent mal l'interpréter. Et pas par accident ou de manière, si c'est des opposants, ils vont faire peut-être exprès. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à s'expliquer envers des millions de personnes qu'envers trois personnes qui sont devant nous et qu'on connaît. Donc il y a ça aussi à prendre en compte.
On peut tromper une fois mille hommes. Non, mille fois, non. C'était une référence, c'était faire du mot. Non, mais alors moi, il y a quelque chose, parce qu'il est orienté, votre discours, je vous le dis tout de suite, pardon. Oui, allez-y.
Je voulais dire que tout est adapté pour plaire, parce que, comme vous avez dit, par rapport à l'influence, quand il se lève et que tout est prêt, ça sort de l'imaginaire. On se dit que c'est irréaliste, quoi. C'est tout est prêt, tout est dit, alors que quand on est avec notre famille, c'est pas pareil, c'est adapté au public ou à l'auditeur. On a tous besoin d'imagination, enfant ou adulte, ce qui nous empêche de rester dans une boucle pour pouvoir sortir d'un contexte sur Terre, c'est-à-dire qu'on peut imaginer se créer un monde et puis faire tout ce qu'on veut, enfin tout ce qui est illégal. Oui, non, mais c'est sortir d'un contexte.
Sortir de la réalité pour imaginer, voilà. Par exemple, un avenir.
Oui, voilà.
Imaginer le futur ou des lieux qui n'existent pas, des utopies.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et par rapport donc au pouvoir de la parole, la parole permet cela justement ?
Bien sûr. Parce que.
Bah oui, par exemple, revenons toujours sur la politique. Un politique va créer son utopie, va créer son avenir avec le pays dont il veut être à la tête. Si c'est ça le. Il crée l'utopie de ce pays par rapport à son programme politique et il imagine en fait comment est-ce que, bah dans ce cas-là, la France serait si il ou elle était élu président ou présidente.
Alors, vous pensez tous forcément à Martin Luther King, I have a dream,
oui. Hein,
puisqu'on parle des imaginaires, oui.
Par rapport à l'imaginaire, on parlait de la fonction poétique du langage et de différents sens que des mots peuvent avoir. Et on peut parler en littérature, par exemple, les contes, c'est souvent oral et ça permet de... Souvent, ça cache des messages aussi, donc le double sens des mots. Et en même temps, c'est raconté de manière plus simple. Enfin, ça dépend. Quand c'est des contes pour enfants, oui. Mais il y a pas mal de contes qui n'étaient pas pour les enfants au départ et qui ont été racontés du style La Petite Sirène. Et ça permet donc ce lien avec l'imaginaire et
je vous suis.
Oui, de se représenter le monde différemment peut-être. Ça, on peut avoir différentes pensées.
Nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, des Disney, dans lequel c'est imagé, c'est parfait, où derrière, il y a toujours un but dénoncé pour apprendre les valeurs aux enfants dès le plus jeune âge, ce qui permet de raconter une histoire aux enfants de manière simple, mais en défendant toujours les mêmes valeurs dans la vie quotidienne qui vont les suivre tout au long de leur vie.
C'est à peu près ce que je voulais dire, oui, chercher le mot valeur, c'est à peu près ça.
Vaste mot, hein. On peut parler de valeur financière, de valeur humaine.
Tout à fait, c'est un mot pareil avec plusieurs
morale.
Sens.
Et puis alors, pour rebondir sur l'imaginaire, on a un président actuellement hein, qui, lorsqu'il s'était présenté en 2017, avait parlé d'un projet. C'est notre projet, avait-il crié dans un état où il était, on aurait presque pu penser second, puisqu'il souhaitait notre projet. C'est pas mon projet, c'est notre projet, le poids des mots. Un projet donc d'avenir forcément, hein, puisqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Donc vous pensez que dans le discours, il y a aussi une sorte d'appel à un imaginaire collectif qui est fait. Alors on peut penser à Martin Luther King, hein, qui rêverait de plus de paix entre les humains.
Quand ils font leur discours, ils veulent faire rêver les gens, du coup. Ils veulent faire rêver les gens. L'humain rêve tout le temps, donc on veut toujours plus. Et quand ils disent c'est notre projet, ils regroupent tout le monde, du coup. Quand ils disent c'est notre, c'est vraiment nous. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ils disent ça à toute une nation, donc c'est fort en... C'est pas comme si, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas comme si c'est mon, c'est notre. C'est. Enfin. Putain, je me comprends quand je dis, mais. C'est dur.
Pour revenir sur ce qu'il dit, en fait, il avait dit c'est mon projet, ça paraîtrait plus égoïste et les gens ne se reconnaîtraient pas. Et le fait de parler au nom de tout le monde et de montrer qu'il y a un intérêt pour les autres personnes aussi, ça permet du coup de convaincre les gens du coup.
Je trouve aussi que c'est notre projet, ça rajoute une forme d'intimité, comme si ils étaient tous ensemble face au peuple, ou enfin tous ensemble pour mener le projet. Et je pense que ça
C'est notre projet, c'est vraiment l'idée d'une nation unie. C'est aussi l'image qu'ils voulaient se donner en se disant ni de gauche ni de droite. C'est supprimer les clivages et montrer qu'on peut tous être ensemble. Et je pense qu'il y avait cette idée-là avec notre projet. Après, ça reprend la question du mensonge.
En parlant de ce discours d'Emmanuel Macron, on revient sur la parole parce qu'il avait fait appel à un coach vocal pour établir ce discours. Discours du coup qui n'a pas bien réussi parce que son coach lui a dit qu'il avait mal joué. C'est aussi quelque chose dans la parole qui est important. On revient sur la forme, la manière dont on l'exprime. Crier à une foule de gens que c'est notre projet, ça peut faire moins d'effet si par rapport à la manière dont on le fait.
Alors, oui, il y a plusieurs choses qui m'ont troublé dans ce que vous disiez. Donc, tout à l'heure, vous parliez justement de la xénophobie, par exemple, qui peut être utilisée dans un discours. Par rapport à l'imaginaire que l'on peut se faire de l'autre, le percevoir comme une menace au lieu de le percevoir comme un autre. Il y avait ça. Et puis donc toujours sur cet imaginaire, comment est-ce qu'on se figure l'autre, comment est-ce qu'on imagine l'autre quand on fait un discours, puisqu'il ne va pas être improvisé, il va être préparé, chaque mot va être choisi, pesé, destiné à un imaginaire collectif, à celui de l'Assemblée. Il y a quelque chose de très intime, en fait, dans la parole. C'est-à-dire qu'on peut penser, on s'est peut-être banalisé aujourd'hui avec la radio, la télévision, tous les médias, mais la parole rentre via les oreilles dans l'esprit des gens et dans leur imaginaire collectif. Il y a quelque chose de très puissant qui rentre, puisque vous le disiez, qui permet de manipuler, c'est quelque chose de très puissant, la parole.
Vous parliez de xénophobie, c'est vrai que notamment il y a beaucoup de clichés et d'idées reçues, surtout sur les migrants qui viennent par exemple d'Afrique, donc ça rejoint xénophobie, racisme, tout ça. Et ça, ça a été propagé, cette idée, parce que les discours ont une très grande portée, on peut en voir un peu partout. Ces gens sont très populaires dans le sens où on les voit beaucoup. Et on les entend beaucoup aussi. Ils parlent tout le temps. Ça rejoint le fait que c'est une idée qu'on voit beaucoup. Parce que...
T'as besoin d'aide, mais...
J'ai besoin d'aide. Oui.
Ça revient... Les idées reçues et les stéréotypes qu'on peut avoir sur les autres revient à l'imaginaire. Et c'est là-dessus souvent que les gens vont jouer pour être racistes, xénophobes. C'est jouer sur la peur de « on ne sait pas ». Et le fait de ne pas savoir, c'est ça en fait qui vont leur permettre de manipuler les autres. Le fait de ne pas savoir et de ne pas être renseigné, c'est ça qui fait qu'on peut être manipulé dans certains discours. C'est également pour ça qu'on fait cette spécialité HLP, c'est pour pouvoir être averti et prévenu de ce genre de mots et de discours qu'on peut avoir sans pour autant en finir influencé.
Parce que je me pose la question, alors pour faire du journalisme pour Radio Campus, et la place du journalisme, moi je pense par exemple à Albert Londres, il faut tremper la plume dans la plaie, qui a dénoncé, je pense aussi à beaucoup d'écrivains, puisque vous faites de la littérature, qui ont été par ailleurs journalistes, alors je pense à Albert Camus, à comment s'appelle Émile Zola, Victor Hugo, qui étaient à la fois des hommes de lettres, des écrivains, même des poètes ou des romanciers, mais aussi des journalistes, et là je vais citer alors un autre, titre, je vais trouver, je crois que c'est encore Albert Camus, l'historien, le journaliste est un historien du présent. Le journaliste qui peut informer, permettre de faire comprendre, afin qu'il va se servir de sa parole écrite, justement pour informer, dénoncer et puis enrichir la connaissance de sujets très complexes qui vont permettre de mieux comprendre l'altérité. Le paradoxe, moi, que je rencontre là au cours de cette émission, c'est que donc, vous, on vous demande justement d'aborder l'humanité via la littérature et la philosophie, et puis on est en train de parler de personnes qui rejettent une partie de l'humanité, qui sont xénophobes et qui n'adressent leur discours qu'à une certaine partie de la population qui ne veulent pas forcément être élus par toutes et tous, hein, et qui affirment clairement leur opposition à celles et ceux qui auraient de l'humanité. Alors j'en reviens encore à ce que vous disiez. Par exemple, quand on parle de xénophobie, on va parler de l'étranger comme d'une menace, et on entend peu de journalistes, hein. Par contre, il faut faire aussi peut-être le procès des journalistes, dénoncer ce drame humain qui se déroule en Méditerranée actuellement, même à l'heure où je vous parle, où des personnes sont en train de mourir. On n'en parle pas de ça. On est dans quelque chose de très froid, de très technique, avec des milliers de personnes qui viendraient nous envahir, et en oubliant de parler de cet individu qui est en train de mourir en ce moment. Il y a un décalage, je trouve, aujourd'hui sur cette parole, enfin, telle qu'elle est.
Bah, il y a plusieurs décalages, parce qu'il y a le décalage de ceux qui meurent en Méditerranée, on n'en parle pas, ou alors comme une menace, et au final, c'est bien qu'ils ne soient pas là. Et à côté de ça, les réfugiés ukrainiens, on les a recueillis. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je trouve que c'est bien qu'on recueille les réfugiés, mais on les a recueillis les bras ouverts. Les journalistes, ils n'ont pas hésité à dire que c'était normal. Même l'extrême droite, parce qu'ils disaient que ils nous ressemblaient. Il y avait eu ce discours de « ils sont comme nous, ils ont des voitures, ils ont des routes, ils sont blancs ». Il y a clairement cette idée de « ils sont blancs ». Donc, on les soutient. Du coup, ce qui fait qu'il y a vraiment un double discours entre ceux qu'on va accepter par rapport à leur couleur de peau, par rapport à là où ils sont, et ceux qu'on va refuser parce qu'on va les montrer comme des dangers. Il y a du coup cette question de quel migrant on va accepter, quel réfugié on va accepter ou ne pas accepter dans les deux cas. Ce qui peut, en fait, à mes yeux en tout cas, c'est très inhumain de classer, de hiérarchiser les êtres humains en fonction de choses aussi débiles. En fait. Enfin, c'est débile de hiérarchiser des êtres humains par rapport à là où ils sont, par rapport à comment ils vivent par rapport à nous, parce qu'au final, ils vivent leur vie. Enfin, là, du coup, ils sont juste en train de mourir et on ne fait rien. Donc oui, c'est le truc de notre spécialité, c'est humanité, littérature, philosophie, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont inhumaines.
Mmh. Comment est-ce que vous envisagez ce pouvoir que vous allez donner à la parole dans votre vie d'adulte? Et là, on parle évidemment d'imaginaire, hein, vous n'y êtes pas encore, mais comment est-ce que vous pourriez vous saisir de la parole comme d'une force humaniste, voilà, comme j'arrive, je pense à vôtre, c'est pas évident ça serait plus simple à l'écrit. Voilà, comment pouvez-vous vous servir du potentiel d'humanité, d'humanisme qui réside dans la parole?
Déjà, enfin, en revenant aux réseaux sociaux, quand vous avez parlé tout à l'heure, enfin, c'est très spécial parce que il y a deux types de discours. Il y a le discours mort et le discours vivant. Par exemple, un discours vivant, c'est un discours où on va montrer sur une estrade, on va parler devant tout le monde, par exemple à l'Assemblée. Maintenant, le discours mort, c'est un livre, par exemple, un avis qu'on peut afficher sur les réseaux sociaux, on peut afficher un avis. Donc c'est pour ça, c'est très spécial maintenant. Mais j'ai l'impression que de moins en moins, avec les réseaux sociaux, on a cette impression de pouvoir de la parole. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, des gens peuvent dire des paroles, mais comme on ne monte pas sur une estrade, on ne voit pas qui dit, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc maintenant, la parole peut être peut-être un problème dans certaines situations, par exemple, si des gens peuvent afficher leur racisme ou des choses comme ça. Mais il faut répondre aussi par la parole. Donc y a des gens qui font ça, mais les réseaux sociaux, c'est très spécial au niveau de la parole, je trouve.
Alors, c'est très puissant ce que vous avez dit. Enfin, je vous laisse poursuivre, mais j'oublie pas parce que je vais rebondir dessus.
Je trouve que ce qu'il dit, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la parole, ça n'a pas tant de pouvoir que ça au final. Parce que tout le monde parle, tout le monde donne son avis, tout le monde s'exprime sur des choses plus ou moins correctes. Après, ça dépend des opinions. Mais du coup, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tant de pouvoir de parole. Et du coup, pour pour revenir à ce qu'on peut faire du coup par rapport à, avec notre SP pour, voilà, pour changer un peu les choses. Déjà, je pense que chaque discours est une forme de manipulation. Si on apprend à on apprend la forme, le fond, qu'on apprend à argumenter, à faire comprendre ses idées. En vrai, on nous apprend aussi à manipuler. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on peut avoir de bonnes intentions derrière. Mais je pense que les gens qui manipulent aussi pensent qu'ils ont des bonnes intentions derrière et voilà, au final. Mais je pense qu'en vrai, quand on parle à un public, qu'on veut faire véhiculer ses idées, qu'on veut convaincre les gens, en vrai, c'est de la manipulation dans tous les cas.
Mmh. Et alors, en plus, oui, pardon, allez-y.
Oui, alors moi, je pense qu'en fait, il faudrait... du coup, avec tout ce qu'on apprend dans notre spécialité, on nous apprend à essayer de trouver le vrai du faux, à différencier le vrai du faux. Et en fait, il faudrait essayer de trouver les meilleures personnes qui parlent avec le plus de simplicité possible et déjà des idées qui nous ressemblent, des idées qui nous conviennent pour nous. Et du coup, essayer de trouver les gens, des gens simples qui parlent comme ils pensent, mais qui n'essayent pas de chercher les mots pour avoir des sous-entendus ou pour manipuler en fait juste le mot simple qui veut dire du coup l'idée qu'il défend et pas sous-entendre comme ça parce que ça sous-entend un peu qu'il est que la personne est...
Oui, mais là vous me parlez de Marine Le Pen.
Peut-être.
Qui parle simplement aux Français qui a le...
Non mais je sais pas.
Et qui disent qu'elle pense. Non mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et en plus c'est encore le paradoxe, vous voyez, parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas encore entendu. Prenez le micro, je voyais que vous aviez envie de prendre le micro. Allez-y. Vous vouliez vous exprimer, non? Allez-y.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut projeter la vérité comme un horizon à atteindre. On est dans un monde où la montée de sophistes est énorme, et notamment due par la légitimité et par le pouvoir d'autorité. On est beaucoup plus susceptible de tomber dans les filets de la manipulation. Donc, lorsqu'un discours est proclamé dans n'importe quelle instance, il faut... entendre ce qui est dit, mais également chercher ce qui n'est pas dit.
Alors, peut-être une explication de texte pour nos auditeurs auditrices sur ce qu'est un sophisme.
Un sophisme, c'est une personne qui étudie la parole, mais dans le but de manipuler. Voilà, elle utilise la rhétorique.
D'accord.
Moi, je voulais revenir sur ce qu'Iliane disait sur son idée de discours mort sur les réseaux sociaux. En fait, un discours, pour que ce soit... vivant, comme on dit, il faut pouvoir l'interroger. Donc par exemple, un écrit, on ne peut pas l'interroger, même si c'est la transcription d'un discours. Et c'est pareil pour une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux maintenant. Et les vidéos, on ne peut pas interroger directement la personne qui parle. Donc c'est considéré comme un discours mort. C'est peut-être moins bien qu'en vérité, mais c'est toujours un moyen de s'exprimer après.
Moi, c'était par rapport aux réseaux sociaux parce que du coup, ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la parole. Et en même temps, il y a un point de vue où les réseaux sociaux donnent la parole à des gens qui ne l'avaient pas forcément, qui auraient peut-être eu énormément de mal à l'avoir. Et ça donne aussi, par exemple, à des médias alternatifs, en utilisant le mot alternatif, qui ne passent pas forcément à la télé. Enfin, ça dépend lesquels. Et qui permettent à plein de personnes de s'exprimer, de donner leur opinion. Et de nous faire découvrir des opinions différentes. Donc, bah, y a le côté où, par exemple, avec les discours morts, une vidéo, c'est un discours plutôt mort. Mais la personne derrière, si elle est encore vivante et qu'elle voit ce qu'on en dit, elle peut y répondre. Donc, mort, mais pas tellement.
J'aurais presque envie de penser que les réseaux sociaux, en fait, c'est peut-être l'espace dans lequel il ne faut pas aller, puisqu'il n'y aura pas d'utopie possible. C'est peut-être... justement, c'est une utopie dans le sens, le non-lieu, enfin le lieu qui n'existe pas, totalement virtuel, où il n'y aura pas d'intimité, où on ne pourra pas dire vraiment ce que l'on pense parce que c'est limité à la foule, enfin c'est exposé à la foule et donc limité dans le terme d'exigence intellectuelle aussi. Je ne sais pas s'il peut y avoir de la pensée telle que vous la travaillez, vous, dans votre matière de HLP, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un espace de pensée, les réseaux sociaux? Allez, c'est la question que je vous pose.
C'est un espace de pensée, les réseaux sociaux?
Oui.
Oui et non.
Pourquoi oui, pourquoi non?
Oui, parce que n'importe qui peut parler de n'importe quoi, mais tout le monde n'est pas forcément spécialisé sur un domaine donné, et donc il ne devrait pas avoir à parler de ça.
Après, la parole sur les réseaux sociaux, il y a plein de problèmes par rapport à la parole sur les réseaux sociaux. Et l'un d'eux est le fait que les gens, ils parlent beaucoup, des fois juste pour parler. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent et qui le disent pour l'attention, pour être validés par un certain groupe de personnes. Et ce qui est bien aussi et qui donne un peu espoir en l'humanité, c'est que ce que beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux, quand on sort dans la rue, il y a très peu de gens qui peuvent nous le répéter en face ou exprimer de telles idées, ce qui montre qu'en vrai, c'est une utopie du coup. C'est pas réel, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de gens qui mentent et qui ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent ou qui exagèrent certaines choses.
Je dirais même que les réseaux sociaux, c'est une dystopie. Au contraire, c'est très spécial puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut redéfinir jusqu'où va la liberté d'expression, la liberté d'opinion, enfin qui est un droit fondamental, mais jusqu'où va-t-elle ? Quelles paroles peut-on prononcer ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas prononcer ? Enfin voilà, puisque bon, se faire insulter comme ça sur les réseaux sociaux par quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas sympa, pas cool. Mais des fois, il y a des comme a dit Mariam, c'est Mariam, oui, excuse. Des fois, il y a des gens qui se prononcent sur des sujets dont ils ne connaissent même pas, dont ils ne te connaissent même pas un quart, dont ils ne savent pas de quoi ils parlent, ou ils vont juste voir quelque chose, par exemple, sur Twitter. Twitter, pour moi, est un bon comme un mauvais réseau social. C'est même tout le monde peut s'accorder pour dire que c'est le pire au niveau de la communauté, des choses comme ça, parce que des fois, les gens sont débiles. C'est tout. Les gens sont débiles, des fois, sur leurs paroles, sur leurs pensées. Enfin, voilà.
Beaucoup de commentaires. Attendez. Oui, allez-y. Je ne vous oublie pas.
Par rapport à la pensée sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui essayent certainement de véhiculer de bonnes informations, des choses comme ça, mais ils sont beaucoup moins suivis, en fait, parce que les gens qui diraient qui parleraient de sujets spécifiques sans en être spécialiste ou sans connaître vraiment, sans savoir ce qu'ils disent, eux, curieusement, ils vont être plus suivis, ils cherchent juste à être connus. Et donc ça participe à la désinformation, en fait.
Et ils y vont pour acquérir la notoriété.
Exactement.
D'accord, et rien d'autre, et pas forcément pour faire avancer la société. Alors, j'arrête pas de me poser des questions, moi, c'est normal, c'est le travail d'un journaliste. Quand vous parlez d'humanité, littérature et philosophie, est-ce que vous parlez de l'humanité, l'ensemble des humains qui sont sur la planète, ou alors de ce sentiment que l'on peut avoir lorsque, je sais pas, on sert amicalement un inconnu dans la rue juste parce qu'il voulait un hug, ou alors je sais pas moi, quand on fait preuve d'empathie envers un camarade qui avait besoin justement d'une épaule et d'être consolé, de quelle humanité il est question dans votre spécialité? Est-ce que vous pourriez me parler de cette humanité que vous étudiez à travers la littérature et la philosophie?
Pour moi, l'humanité qu'on va étudier, c'est vraiment le lien qui lie, enfin, c'est un lien donc c'est normal, mais qui unit tous les êtres humains les uns aux autres, qui fait que quand on voit quelqu'un, on sait que, c'est un peu religieux ce que je vais dire alors que je ne suis pas, mais que c'est notre frère ou notre sœur, que c'est le lien...
Alors notre Adelph, on va dire, je ne sais pas si vous connaissez ce terme,
oui, voilà.
C'est pour parler de fraternité ou de sororité, mais sans évoquer le genre.
C'est notre Adelph, parce qu'on est tous liés, parce qu'on est tous humains. Et des fois, ça fait un peu étrange parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Et pourtant, par rapport à l'humanité, on est quand même lié à eux. Donc c'est un lien tellement fort qui fait qu'on va être empathique envers les autres et qui fait que même si on n'aime pas quelqu'un, on sera pareil que lui sur beaucoup de points.
L'humanité comme un lien, alors. C'est ça dont vous parliez. Pas forcément l'ensemble des... Enfin, alors, ça rejoint à la fois l'ensemble des individus qui sont sur la planète et ce sentiment que l'on... Enfin, ce sentiment, c'est peut-être pas le mot. Ce lien, voilà, ce lien qui unit ces individus.
C'est ça.
Très bien, oui.
Et du coup, ce lien, ça fait aussi écho à l'un des pouvoirs de la parole qui est un peu plus positif que la manipulation. C'est le fait qu'elle peut fédérer sur une même idée en parlant avec les camarades ou autres personnes. Donc c'est l'un des pouvoirs de la parole aussi.
La question sur l'humanité, c'est aussi une redéfinition un petit peu du monde. Essayer de déterminer notre approche de comment nous pourrions vivre ensemble en étudiant les anciennes sociétés, le mode de fonctionnement, en se demandant pourquoi user d'un tel ou tel pouvoir politique, aborder notre approche du monde.
Moi, je pense que, pour moi, l'humanité dans HLP est tout court. Donc déjà, ça a plusieurs sens. Donc l'humanité en termes de tous les humains, oui, on les étudie sous la forme de société, par exemple, donc comme Belchand disait sur les sociétés anciennes et même actuelles et les modes de fonctionnement. Mais également, l'humanité, c'est aussi, je dirais, une valeur, quelque chose qui, comme disait Pauline, nous relie. Donc c'est un peu des deux. On va faire un peu tous les sens du terme.
Alors attention avec le mot valeur. Dites-moi un peu plus, une valeur, ça peut être, une valeur, c'est une sorte d'étalon, de mesure.
Ce serait quelque chose auquel on est attaché, un principe peut-être, inculqué ou non, et ça dépend de chacun. Chacun a ses valeurs et elles ont des raisons différentes, elles sont différentes. Il y en a qui peuvent être pareilles, mais elles sont différentes, généralement.
Non, alors je vous demandais de faire attention avec ce mot, parce que il est souvent brandi par les hommes et les femmes politiques. Hein. La France a des valeurs. Oh là là. Ça fait peur, en fait. Ce mot-là, il a été... Oui, bon. On va poursuivre sur l'humanité.
Il fait peur, ce mot, dans la bouche de certains, mais ça dépend de la manière dont on le définit.
Il faut peut-être justement s'en servir et le brandir, justement, et le réaffirmer, peut-être réaffirmer ses valeurs.
Ce serait une bonne idée, oui.
Concrètement, et puis peut-être que c'est à ça que vous servent les livres que vous étudiez, les philosophes que vous étudiez, que vous pouvez citer. Ce sont des humains, des humaines, des humains qui partagent ces valeurs.
Oui, tout à fait.
C'est des sujets très complexes. Je vous trouve très courageux d'avoir fait cette spécialité, de vous confronter, j'allais dire, à la parole, à l'altérité, à ne pas être d'accord. Moi, j'ai beaucoup appris dans cette émission en vous écoutant. Elle est malheureusement terminée. On va essayer de donner un mot de la fin pour nos auditeurs auditrices, notamment sur la dimension positive du pouvoir de la parole. On a suffisamment dénoncé justement son mauvais usage. Et puis on va faire un petit tour de table justement, comment se servir de ce pouvoir pour plus d'humanité.
Pour plus d'humanité, on pourrait prendre en compte le fait que, au lieu de manipuler et de diviser, il peut aussi rassembler. On l'a vu, beaucoup de sociétés peuvent être créées autour de la parole, autour du contact humain. Et on est des animaux sociaux, comme on dit, les êtres humains. Du coup, la parole, c'est important pour nous rassembler, pour créer des liens, pour se connecter avec les autres.
Je suis totalement d'accord avec Mariam. Pour moi, la parole, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est utile dans une carrière professionnelle. Par exemple, un avocat, il s'en sert tous les jours. Et je trouve ça super d'apprendre dès le lycée comment ça marche, comment on peut s'en servir. Et bien sûr, pas de manière mauvaise. Totalement négatif, comme par exemple avec la manipulation qui est revenue beaucoup de fois durant cette émission.
La parole, c'est important. Je pense qu'on devrait l'utiliser pour défendre nos idées, mais des idées humanistes de préférence, parce que c'est à mes yeux beaucoup plus positif et meilleur pour l'avenir et le monde qu'on pourrait avoir. Et c'est ça, défendre ses idées, celles qui nous tiennent à cœur, toujours de manière humaniste.
On voit aussi que la parole a beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui avec la jeunesse, parce que aujourd'hui, les jeunes décident de prendre la parole plus souvent, aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est pas non plus quelque chose d'aussi mauvais que ça, parce que les jeunes n'ont pas forcément droit à la parole devant tes assemblées.
Pardon, je suis malade. Du coup, c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend pour qu'on puisse, nous aussi, pouvoir exprimer à notre tour avec ces autres personnes qu'est-ce qu'on veut faire de la société d'aujourd'hui et comment est-ce que, finalement, on l'interprète.
Donc, chaque chose dans la vie a des points positifs et négatifs. La parole est un aspect humain, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pourquoi chaque individu doit avoir connaissance, doit pouvoir être informé sur sa parole, car dans le temps, dans le cours du temps, la parole a servi à beaucoup de choses. On peut parler notamment de la Révolution française, où grâce au soulèvement des nations, on a pu faire valoir nos droits pour une société meilleure.
Pardon. La parole, c'est aussi important, nous, pour notre avenir dans la vie de professionnelle, par exemple, quand vous citez Marine Le Pen, c'est tous des anciens avocats, par exemple, pour des métiers comme avocat, des choses comme ça. Il est important de bien maîtriser sa parole, de bien parler, être éloquent. Et du coup, par un entretien ou des choses comme ça, ça peut nous être très utile.
La parole, ça peut être destructeur, mais ça peut être aussi, ça peut servir par exemple pour réconforter les gens. Quand, par exemple, les psychologues, quand quelqu'un sent mal, il va avoir une personne pour l'aider à se comprendre soi-même. Enfin, voilà.
Pour revenir, comme dit Inès, pour moi, c'est la parole de chacun est une arme qui peut détruire ou bien sûr. Défendre quelqu'un comme dans les tribunaux et elle peut donner aussi l'envie de suicide pour certains parce qu'elle peut vraiment affecter. Voilà.
Je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Amy sur la parole dans la jeunesse. Enfin, je trouve que de mon avis la parole est souvent délaissée du côté des jeunes. Enfin, on ne les laisse pas assez s'exprimer parce que justement, sous prétexte qu'ils sont jeunes, on a tendance à dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas assez vécu d'expérience ou de choses dans la vie. Alors que même s'ils n'ont pas forcément vécu beaucoup de choses, ils ont des choses à dire parce que justement, ils veulent faire progresser la société et la rendre un peu meilleure que ce qu'elle est maintenant.
Oui, et pour revenir sur faire progresser la société, la parole, ça permet de parler de plein de sujets importants, de les mettre en valeur, en avant, et du coup, d'améliorer la société et d'effacer l'inégalité, tout ça, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Et en parler, ça permet d'améliorer la société.
La parole, c'est important, mais il faut faire attention quand même aux mots qu'on emploie pour pas que ça soit pris dans le mauvais sens. Parce que chaque mot, comme déjà dit, ça a plusieurs sens. Et il faut faire attention afin de pas blesser ou... Enfin, voilà.
Moi, je vais revenir vite fait sur ce que disaient Eva et Pauline sur la parole dans le sens où ça c'est pas forcément négatif donc notre spécialité nous permet de voir tous les aspects un peu mais également de s'en préserver c'est de ce que disait Eva la manipulation qui est revenue plein de fois de se préserver de tout ce qui pourrait nous influencer donc avoir un esprit critique en fait complet.
Merci à vous. Il va être difficile de synthétiser ce qui a pu se dire avec ces 15 participants donc de la classe de première spécialité HLP en ce vendredi 9 février au lycée Voltaire. Je retiens rapidement là comme ça que la parole est une spécificité humaine. De ces animaux sociaux que nous sommes et qu'elle devrait donc normalement servir l'humanité, elle devrait être employée à cet usage. On n'en a pas parlé, ça ferait l'objet d'une autre émission, du pouvoir de l'écoute, parce que vous avez parlé de cette parole par exemple qui peut être confiée à un ou une psychologue et donc du pouvoir de l'écoute. Et vous avez également parlé de la place de la parole des jeunes qui restaient encore à définir, parce que c'est sur les réseaux sociaux que les jeunes vont se réfugier pour pouvoir s'exprimer, mais dans des cercles restreints, soumis au regard et à l'approbation, au rejet justement des autres. C'est à mon sens un espace insuffisant, puisque vous aviez parlé, que vous nous disiez qu'il n'y avait pas de place publique sur laquelle les jeunes pouvaient s'exprimer et il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et puis enfin, vous nous avez parlé aussi au sens des mots. Il y a encore beaucoup à faire favoriser plus d'humanité chez les humains, et heureusement que vous êtes là justement pour assurer la relève grâce à la littérature, à la philosophie et à votre enseignante qui vous guide tout au long de l'année. Je vous souhaite de poursuivre dans cette voie-là. À très bientôt sur Radio Campus Orléans.
La banlieue, c'est intéressant, c'est d'actualité. Les élèves n'ont pas trop la haine. Ils 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 n'ont pas trop la haine.
Des jeunes arrivent par centaines, sans soutien, sans aide. Arrivent à faire des choses saines, sans racines, sans bled. Sortent du ghetto sans gangrène, juste un camp d'une scène. Pour dévoiler leur haine quand les banlieues lentes s'éteignent.
Toi, t'as pas la haine, pourtant tu flippes, y'a plus de métro. Stress, fixe la jeunesse dans ton rétro. Laisse, zigzag, prouesse, esquive sans finesse. Tes faces pourries méritent le Guinness.
C'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est qu'on arrive en masse et que ça efface ton règne. C'est intrus dans ton monde, pas soldat dans ton arène. Mais je me dois d'être bourreau face au louveteau que t'amènes.
Ton sevi, action, nous, réaction, on subit. On s'est dit, y'aura confrontation, donc on s'unit. On s'est mis du côté de ceux qui saignent quand tu sévis. Insoumis, pour voir tes rêves inassouvis. Je crois qu'il y a le feu, faut agir vite.
Ils n'ont pas trop la haine.
Je crois qu'il y a le feu, faut agir vite.
Ils n'ont pas trop la haine.
Réflexe de guerrier ici, des mots en guise d'action, faut que ça soit humble et précis. Face d'intimidation, tu dis qu'on casse et détruit. Genre tu fléchis de frisson, mais quand ton col est construit, toi tu déchires nos ambitions.
Allez, pousse-toi, dis pourquoi tu fais ça. Tu dis qu'on s'apaisse à faire des choses, mais c'est tout ce que tu nous laisses. S.A. cause de ça, si on s'impose, c'est qu'on a que ça. Là, les règles, c'est toi qui les fixes.
Si on voyait la sagesse, on s'en servirait au mieux. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te caresse avec un bandeau aux yeux? Sous mes chaussures, y'a pas de merde, qu'on patrasse dans ton milieu. Je défonce ton milieu par les traces du vrai en feu.
18, je crois qu'il y a le scroc. Faut agir vite avant de pouvoir apercevoir nos faces dans zone interdite. J'invite tous ceux qui nous évitent, tous ceux qui nous irritent, à chercher pourquoi c'est de la rage qu'on mérite. C'est des hommages qu'on mérite et c'est dommage qu'on évite. Fais le tour, fais du maudit paysage qu'on habite et c'est d'usage qu'on milite.
Et c'est de rage que je réplique.
Ils veulent tourner la page.
Manque de courage et de trip.
Je crois qu'il y a le feu, faut agir vite.
Ils n'ont pas trop la haine.
Je crois qu'il y a le feu, faut agir vite.
Ils n'ont pas trop la haine.
Je casse le moulage et prends fuite quand beaucoup rentrent dans la ronde. Beaucoup errent et vagabondent dans les mystères de ton monde. Faut toucher le concret, c'est le capteur, la sonde. Pénitencier complet, ça montre que ton système gronde.
Hommes enfermés, classés par nationalité. Confirmé. Où est ta rationalité? Affirmé. Dans tes traités sur l'égalité.
Égalité,
liberté,
liberté.
Fraternité.
Un mot qui bloque dans ton milieu, la vérité. C'est que tu te frottes sur notre ciel bleu.
Tu nous méprises tant,
tu devais pas t'attendre à mieux.
La prochaine fois,
quand tu parles des jeunes de banlieue,
mesure tes mots,
mesure les mieux,
mesure les mieux,
tes mots,
mesure les mieux,
mesure tes mots,
mesure les mieux,
tes mots,
tes mots,
mesure les mieux,
mesure tes mots,
mesure les mieux.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans.
Let me rub my back against the notches on your bedpost. Scratchy zap the thoughts off my flesh and shed ghosts. My head's close to your closet door. I've got the glass to my ear. My nose is in your business. I smell something fishy here. I hear bones rattling. Poems battling for space and time. Phones that'll ring when I make judgment calls with pickup lines. Sexual hangups leave me waiting nude. And while alone, it just gets aggravating. Masturbating to a dial tone. I'm the home to runaway trains of thought. But one track mind is a collision in a course where victims cross bedroom eyes. Uncross their legs exposing inner thighs. Disrobe and show my most convincing disguise.